Bonsoir à tous. Le convoyeur de fonds d'Aubervilliers arrêté à Amiens. Il avait disparu hier matin avec 3 millions d'euros. Une bonne partie du butin a été récupérée. Les actes antisémites en hausse l'an dernier en France, mais aussi en Europe. Édouard Philippe remet le premier prix Ilan Halimi, ce jeune juif assassiné en 2006. Nous serons à Matignon. Au sommaire également ce soir, la transparence dans l'affaire Benalla, promesse du gouvernement après le départ annoncé d'Ismaël Emelien de l'Élysée. Le procès des indépendantistes catalans à Madrid, Carles Puigdemont dénonce une mascarade, vous l'entendrez. Le plafond des huitièmes de finale a percé sans Neymar pour le PSG en Ligue des Champions face à Manchester United. La mort de Monsieur Jazz, André Francis. Et puis le temps, une belle journée presque partout. Les dénoncer sans cesse pour ne pas les banaliser, comme ces croix gammées sur le visage de Simone Veil, le mot Juden sur la vitrine d'un restaurant, le sigle SS sur un local du Parti communiste. Les actes antisémites avaient baissé depuis 2 ans, mais ils sont repartis à la hausse en 2018. 541 menaces ou violences contre des personnes juives d'après le ministère de l'Intérieur. C'est une augmentation de 74% par rapport à l'an dernier. Et ces chiffres tombent donc le jour de la remise du prix Ilan Halimi, ce jeune homme juif de 23 ans, torturé et assassiné en 2006 par le groupe baptisé le Gang des Barbares. C'est à Matignon. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Et Édouard Philippe a évidemment fait référence au contexte des derniers jours.
Oui, un contexte évidemment dans tous les esprits ici dans ce salon de Matignon, dans l'esprit de la mère d'Ilan Halimi, Ruth Halimi, qui a pris la parole très brièvement. La lutte contre l'antisémitisme, en ce moment, ça ne va pas très fort, a-t-elle simplement constaté. Et évidemment, dans l'esprit d'Édouard Philippe, le Premier ministre qui s'exprime en ce moment, il se disait optimiste à l'idée de récompenser ces jeunes qui ont porté des projets de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Mais c'était avant les actes des derniers jours et son optimisme, reconnaît-il, est quelque peu douché.
Je ne me départis pas de mon optimisme et de ma foi dans l'humanité, mais le boxeur que je suis sait dire quand il a pris un coup et quand il a pris un coup qui marque. Et mesdames et messieurs, nous prenons des coups. Nous prenons des coups quand on vomit sur la mémoire d'Ilan Halimi. Nous prenons des coups quand sont tracés des croix gammées sur le visage de Simone Veil. Nous prenons des coups quand, reprenant l'idéologie et la phraséologie nazie, on trace à la peinture jaune sur les vitrines la mention Juden. Nous ne sommes pas KO et nous n'avons pas non plus le genou à terre.
Alors que faire, le Premier ministre rappelle en ce moment le contenu de son plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme annoncé l'an passé. Il n'y a qu'une solution, a-t-il dit, nous battre. Il rappelle que désormais les forces de l'ordre sont spécifiquement formées à cette question et il salue ces jeunes venus ici récompensés pour leur projet. Un jardin de la paix et de la mémoire à Menton, une étude comparée des génocides dans un collège de Dijon. Tous ces jeunes ont dit avoir conscience de leur mission aujourd'hui, devoir transmettre la mémoire des horreurs du passé et lutter contre celle du présent. Un groupe de jeunes comédiens a même demandé tout à l'heure un moment de silence en hommage à Ilan Halimi.
Rémi Brancato en direct de Matignon, merci, avec Jérémy Tuilet. Chez nos voisins européens, quel est l'état de l'antisémitisme aujourd'hui? Bonsoir Audrey Tison.
Bonsoir.
Il est en hausse ces dernières années.
Oui, en dehors d'Israël, 13 juifs ont été assassinés dans des attaques antisémites en 2018. C'est le chiffre marquant de cette étude publiée récemment par le ministère israélien de la diaspora. Du jamais vu depuis les années 90. Une seule de ces victimes habitait en Europe, Mireille Knoll, tuée à Paris en mars dernier. D'après ce rapport, la France est bien le pays européen où l'antisémitisme s'est le plus développé en un an. Le deuxième, c'est le Royaume-Uni, plus 16%, 1600 incidents signalés, 3 fois plus qu'il y a 10 ans. D'après une organisation non gouvernementale dont les chiffres sont certes supérieurs aux données officielles, mais la hausse est bien visible quelle que soit la source. Les relevés britanniques se rapprochent désormais du triste record européen détenu depuis longtemps par l'Allemagne. Autre indicateur, un sondage de l'Agence européenne des droits fondamentaux montre une inquiétude grandissante chez les juifs. Près d'un tiers des sondés disent avoir été harcelés au moins une fois l'an passé, très souvent par Internet et les réseaux sociaux.
La violence, merci Audrey Tison, elle touche aussi les élus. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a presque 3 mois, plus de 80 exactions ou dégradations recensées contre des permanences parlementaires ou des domiciles. Alors les 8 présidents de groupes politiques tenaient à une action action symbolique aujourd'hui à l'Assemblée. Ils sont entrés ensemble et sous les applaudissements dans l'hémicycle avant les questions au gouvernement, avec à leur tête le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Quant à l'enquête sur la tentative d'intrusion au ministère de Benjamin Griveaux début janvier pendant le 8e samedi de mobilisation, eh bien elle avance. 6 personnes sont en garde à vue, soupçonnées d'avoir forcé la porte cochère de la rue de Grenelle avec un chariot élévateur. La justice a prononcé plus de 1800 condamnations depuis le début du mouvement des Gilets jaunes.
France Inter, Sébastien Paour.
Il ne sera resté dans la nature qu'un peu plus d'une journée. Le convoyeur de fonds disparu hier à Aubervilliers a été arrêté. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Interpellé Emmanuel à Amiens avec une grosse partie du butin.
Oui, alors que la police judiciaire parisienne venait tout juste de dévoiler l'appel à témoins lancé pour tenter de retrouver Adrien Derbez, les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme du 36 avaient entre-temps visiblement reçu le bon tuyau sur ce désormais ex-convoyeur de fonds parti avec le montant de la tournée des banques hier matin à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, plus de 3 millions d'euros, retrouvé ce soir à Amiens en grande partie car le butin n'a pas encore été, Sébastien, compté précisément, c'est en cours, tout comme l'opération qui se poursuit en fait pour tenter de retrouver d'éventuels complices, ceux chez qui, par exemple, le suspect armé d'un fusil à pompe avait peut-être décidé de se réfugier, de se cacher, même si les enquêteurs n'excluent toujours pas l'hypothèse d'un contrat effectué pour un groupe criminel capable de faire pression sur ce convoyeur originaire de Marseille, âgé de 27 ans. Sa garde à vue qui a débuté officiellement tout à l'heure en fin d'après-midi pourrait permettre d'en savoir plus.
Merci Emmanuel Leclerc. Deux hommes placés en garde à vue dans l'enquête sur l'assassinat du couple de policiers à Magnanville. C'était en 2016. Deux suspects de 23 et 36 ans qui habitent près des Mureaux dans les Yvelines. Les enquêteurs cherchent à savoir s'ils ont pu renseigner le tueur Larossi Abala sur ses futures victimes. Dans ce dossier-là, tout est parti de possibles casseurs. Le couple de la Contrescarpe, le 1er mai à Paris, qui jette deux projectiles sur les forces de l'ordre avant d'être malmené par Alexandre Benalla. Dernier épisode de l'affaire après le départ annoncé du conseiller spécial d'Emmanuel Macron et Ismaël Emolien, dont vous trouverez le portrait sur franceinter.fr et qui part écrire un livre, rien à voir officiellement avec son nom cité dans le dossier. Dernier épisode donc, cet après-midi à l'Assemblée, Édouard Philippe, interpellé par le député Les Républicains Philippe Gosselin. Voici l'échange, d'abord la question du député de la Manche.
Vous-même, vous étiez, monsieur le Premier ministre, à la Maison de la Chimie, le 21 juillet, quand un peu bravache, le président de la République a dit « qu'il vienne me chercher ». Vous étiez là. Alors, monsieur le Premier ministre, alors que vos proches sont aujourd'hui directement, sans doute, impliqués, on verra ce que dira l'enquête, mais en tout cas, ils ont démissionné, pouvez-vous nous dire, les yeux dans les yeux, quel niveau d'information vous avez, vous, sur l'affaire Benalla ?
Dans ces affaires, la justice s'est saisie plusieurs fois. Preuve, vous en conviendrez, qu'elle agit de façon totalement indépendante et qu'elle veut établir les faits pour ensuite, le cas échéant, les sanctionner. Et je n'ai, monsieur le député, aucun problème avec ça. Nous faisons la transparence et la justice prononcera, le cas échéant, les condamnations qui s'imposent. Et c'est très bien ainsi, je vous le dis, comme je le pense.
Édouard Philippe qui répond au député LR Philippe Gosselin. C'était compilé par Élodie Forêt cet après-midi lors des questions au gouvernement. La politique encore avec cette première pour le Conseil constitutionnel. Il a quitté le Palais Royal aujourd'hui pour siéger à Metz. L'idée sur fond de crise des Gilets jaunes et de grands débats, Maxence Lambrecq, c'était de se rapprocher des citoyens.
Sur le quai de la gare de l'Est, ce n'est pas tout à fait l'ambiance d'une colonie de vacances. Les sages montent dans la voiture 11 et se plongent dans leur lecture.
Pour la sécurité de tous, la SNCF...
Cette première délocalisation loin du Palais Royal, c'est une idée de Laurent Fabius, président du Conseil depuis 3 ans.
Nous voulons vraiment montrer que même si c'est une institution prestigieuse, c'est aussi une institution ouverte sur la population. Et donc notre idée, c'est à peu près tous les trimestres d'aller tenir une audience en région. Donc on commence par Metz, qui est une ville magnifique.
Prochaine étape à Nantes, au printemps. Cet après-midi, les sages ont étudié dans les locaux de la cour d'appel deux QPC, deux questions prioritaires de constitutionnalité devant des étudiants en droit conquis.
On voit le Conseil de loin, on le voit de très très loin. On étudie ses décisions, mais on ne se rend pas compte de comment ça se passe dans la réalité. Et du coup, d'avoir la chance de pouvoir les voir enfin maintenant, de voir comment ça se passe, c'est vraiment un honneur en fait.
À Metz, on est un peu isolé et les personnes de l'intérieur, enfin Paris, ils ne savent même pas bien prononcer Metz, quoi.
Lutter contre cette déconnexion, mise en avant par les Gilets jaunes, passe au moins par ce genre de symbole, même si les sages ont vite repris le train pour Paris.
L'audience est levée, merci.
Laurent Laurent Fabius a promis de revenir pour une conférence la semaine prochaine et le Conseil va bientôt évoluer. Les mandats de Lionel Jospin, Jean-Jacques Hyest et Michel Charras s'achèvent. Les noms de leurs successeurs seront connus dans les heures qui viennent.
De Metz à Marseille, où décidément les mois se suivent et les soucis s'accumulent pour Jean-Claude Gaudin, et une nouvelle fois sur fond d'insalubrité, la justice annule le plan à 1 milliard d'euros que le maire avait mis en place pour rénover une trentaine d'écoles primaires. Plan adopté fin 2017 et très critiqué depuis parce que fondé sur un partenariat public-privé. Le tribunal administratif estime qu'on ne peut pas prouver qu'un tel projet serait plus efficace qu'un autre 100% public.
Le journal de 19h sur France Inter.
C'était le 1er octobre 2017. La Catalogne disait oui à 90% au référendum d'autodétermination. Trois semaines plus tard, le Parlement de Barcelone adoptait une déclaration unilatérale d'indépendance. Et dans la foulée, Madrid plaçait la région sous tutelle. Depuis ce matin, 12 dirigeants séparatistes sont jugés par le tribunal suprême espagnol. Procès de 12 indépendantistes jugés pour sédition, rébellion et détournement de fonds. Mais pas de leur ancien chef, l'ex-président catalan Carles Puigdemont, toujours réfugié en Belgique, et qui dénonce une mascarade au micro de Nathalie Versieux.
Pourquoi c'est une mascarade? Il y a des problèmes formels, des juridictions qui sont claires, absolument claires dans le cadre même de la loi espagnole. Il y a eu de fausses preuves. Il y a eu le rejet d'une grande quantité de témoins, une grande quantité de preuves proposées par la défense. Par exemple, moi-même, je demandais d'être témoin de ces procès parce que moi, je crois que j'ai quelque chose à dire. Ils ont rejeté. Ils ont refusé. Donc je ne peux pas être témoin d'un judice qui va juger mes collègues pour avoir suivi mes ordres. Ils ont peur de quoi exactement que je puisse être témoin de ces procès?
Procès qui se tient sous haute surveillance après, avec les manifestants pro et anti-indépendance rassemblés devant le tribunal à Madrid. Il doit durer 3 mois et il est retransmis en direct à la télévision espagnole. Autre procès, celui du narcotrafiquant El Chapo, jugé coupable à New York. Le procès de cette figure emblématique des cartels mexicains a duré 3 mois. Les délibérations 6 jours et le verdict pourrait lui valoir la perpétuité. La France a évité un coup d'état au Tchad à l'appel du président Idriss Déby. C'est le patron du Quai d'Orsay qu'il dit, Jean-Yves Le Drian. Les frappes françaises au début du mois dans le nord-est du pays visaient un groupe rebelle venu du sud libyen pour prendre le pouvoir à N'Djamena. Toujours le grand flou en Grande-Bretagne, à 1 mois et demi du Brexit. En janvier, les députés britanniques ont rejeté son projet d'accord de divorce signé avec Bruxelles. Elle demande du temps, Theresa May, pour discuter avec l'Union des modifications à y apporter. La première ministre britannique l'a dit cet après-midi au Parlement à Londres.
Comme on s'y attendait, le président Juncker a maintenu sa position. Il ne veut pas rouvrir les négociations. Nous nous sommes mis d'accord, tous les deux, pour laisser nos équipes continuer à discuter et nous nous rencontrerons de nouveau avant la fin du mois de février pour prendre acte de l'avancée de ces négociations. En somme, notre travail continue. Après ma visite à Bruxelles, en Irlande du Nord, la semaine dernière, j'ai accueilli hier le Premier ministre de Malte à Downing Street et je vais rencontrer d'autres chefs d'État européens tout au long de la semaine. Je pense que nous pouvons arriver à un accord qui soit accepté par le Parlement. Nous pouvons honorer le résultat du référendum et nous pouvons mettre ce pays sur les rails vers un futur brillant comme le mérite chaque partie du Royaume-Uni.
En France, le site de Stocamine dans le Haut-Rhin bloqué par 150 personnes. Elle proteste contre la décision de l'État de laisser les déchets toxiques définitivement enfouis. 40 000 tonnes de déchets industriels dangereux stockés à 500 mètres sous terre. François de Rugy reçoit ce soir une délégation d'élus alsaciens. Autre dossier pour le ministre de la Transition écologique, ce tas de déchets déchargés devant son ministère ce matin, des bouts rouges de l'usine Alteo de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, prélevés sur le site par l'ONG ZEA de protection des océans. Bonsoir Célia Kigrem.
Bonsoir Sébastien.
Qui a décidé, cette ONG, de passer à la vitesse supérieure après 10 ans de bras de fer?
Oui, c'est la première fois que les militants de cette association déversent des tonnes de terre rouge devant un site officiel. Leur action se radicalise car ils estiment que l'usine Alteo pollue toujours plus. Alors cette usine d'aluminium ne verse plus ses boues directement dans la Méditerranée, mais elle stocke des tas de résidus de bauxite sur la colline de Mange-Gary dans une pinède à Bouc-Bel-Air. Dès qu'il y a du vent, les poussières s'envolent. Le problème n'est donc pas du tout réglé pour Olivier Dubuquois, le responsable de cette ONG.
On refuse qu'ils continuent à rejeter ces eaux polluées en mer. Parce qu'aujourd'hui, on subit une double peine. On a une pollution à la fois en mer et à la fois à terre. Le problème n'est non seulement pas géré, mais il est de pire en pire. Donc on a décidé que cette livraison parisienne serait, on va dire, une première, mais qu'on allait continuer à maintenir la pression. On va aller sur des sites différents pour leur amener des bouts rouges et qui se retrouvent confrontés à cette pollution avec laquelle nous on vit depuis déjà très 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 longtemps.
Mais de son côté, Éric Duchesne, le directeur industriel de l'usine Alteo, se défend. Les résidus sont lavés et séchés selon les meilleures technologies.
Les résidus solides qu'on stocke sur Manche-Gary, ce sont des résidus non dangereux, ce sont des déchets non dangereux. Donc non dangereux, ça veut dire non toxique, pas de problème sanitaire. Et c'est pas nous qui le disons, c'est des études indépendantes qui ont été réalisées par les services de l'État ou sous leur contrôle, clairement indiquent qu'il n'y a pas de risque sanitaire avec les déchets qui sont stockés sur le site de Manche-Gary.
Donc rien de toxique selon lui. Pourtant, la justice vient d'ordonner à Alteo de se mettre aux normes pour ses rejets en mer dès la fin de l'année. Mais il n'empêche, les opposants prévoient d'autres actions surprises dans les semaines qui viennent.
On les suivra avec vous. Merci, Célia Kiré. Bruno Le Maire enfonce le clou sur les privatisations. Pour le ministre de l'Économie, privatiser Aéroport de Paris, la Française des Jeux et Engie est une nécessité absolue. Confirmation aussi pour l'Express, l'hebdomadaire fondé en 1953 par Françoise Giroud et Jean-Jacques Servan-Schreiber. C'est le bras droit de Patrick Drahi, Alain Veil, qui en prend le contrôle à titre personnel. Il sera demain à 9h40 l'invité de Sonia De Villers sur Inter. La suite de l'examen du projet de loi sur l'école de la confiance à l'Assemblée avec une avancée ce soir, Sonia Princey. Les cartes de tous les départements seront désormais affichées dans les classes.
Après avoir adopté hier soir un amendement sur l'affichage dans chaque classe des drapeaux français et européens et de la Marseillaise, certains députés ont tenté leur chance aujourd'hui sur d'autres thèmes. Afficher la charte de l'environnement ou la carte de l'Union européenne ou encore la carte de France avec les territoires d'outre-mer.
Vous pouvez aujourd'hui, là aussi, donner une preuve d'amour pour satisfaire les collègues ultramarins qui s'adressent à vous.
C'est 3 millions de Français qui n'apparaissent pas sur les cartes. Quand on est Français, on apparaît sur les cartes de France, c'est tout.
Il n'y aura pas assez de murs dans les classes, ont ironisé certains. Et même s'il a été recteur de Guyane, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, n'était pas favorable.
La somme de nos bonnes intentions va conduire à tapisser toutes les classes de France. Et donc, bien sûr que la question de l'Union européenne est fondamentale, comme l'est la Charte de l'environnement, comme l'est l'Outre-mer. Simplement, nous ne pouvons pas créer une série d'obligations pour les classes qui ne seraient tout simplement pas faisables.
Et pourtant,
l'amendement est adopté.
La carte de France et d'Outre-mer a été retenue. Une élue a fait remarquer qu'il restait 900 amendements et contournés autour de cette histoire d'affichage depuis hier soir, sans avoir encore abordé le cœur du texte. À l'Assemblée nationale, Sonia Princey, France Inter.
La saison commence vraiment ce soir pour le Paris Saint-Germain. C'est Grégory Schneider qui a cette formule dans Libération aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il n'y a pas franchement d'enjeu en championnat et que jusqu'ici en Ligue des Champions, tout l'effectif était sur le terrain. Ce soir, autre paire de manches en huitième de finale aller. Bonsoir Cédric Guillou.
Bonsoir Sébastien.
Les Parisiens sont dans l'antre de Manchester United, comme vous Cédric, et il leur manque du beau monde sur la pelouse.
Ah, il leur manque deux de leurs trois armes offensives majeures, on va dire, depuis le début de saison, puisque Edinson Cavani et Neymar sont blessés et absents pour ce huitième de finale aller ici à Manchester United. Il reste donc Kylian Mbappé qui ce soir va devoir briller, va devoir être performant pour perturber cette équipe de Manchester United et placer le Paris Saint-Germain en bonne position avant le match retour qui est prévu le 6 mars prochain du côté du Parc des Princes. Ça ne sera pas facile parce que on disait il y a deux mois lors du tirage au sort que c'était le tirage idéal pour le Paris Saint-Germain, mais à l'époque Neymar et Cavani n'étaient pas blessés et surtout
Cédric Guillou.
Manchester United était en plein désarroi. Tout a changé depuis deux mois, depuis que Ole Gunnar Solskjaer est arrivé et du côté de Manchester United. Il a redressé cette équipe qui n'a pas perdu depuis 11 matchs, toute compétition confondue, qui est en pleine confiance et qui va essayer ce soir de bousculer une équipe du Paris Saint-Germain handicapée par le poids des absences et que l'on espère quand même assez performante pour ne pas hypothéquer ses chances dès ce soir en Ligue des Champions.
On vous écoutera. Merci Cédric Guillou. À partir de 21h ce match, et pardon pour cette petite coupure de liaison très brève, un des grands gardiens du foot anglais disparaît par ailleurs, Gordon Banks, dans les buts de l'équipe d'Angleterre qui remporte la Coupe du Monde 66. Suisse en finale contre l'Allemagne. Gordon Banks avait 81 ans. Autre disparition ce matin, celle d'André Francis, surnommé Monsieur Jazz, membre fondateur de l'Académie du Jazz, directeur artistique de nombreux festivals, dont celui de Paris, et animateur notamment ici à Radio France pendant plus de 50 ans. Bonsoir Jacqueline Petrose.
Bonsoir Sébastien.
Il était passionné par tous les jazz.
Ah oui, sa vie c'était vraiment le jazz et la radio. Sa voix, tous les passionnés l'ont encore dans l'oreille. Il a, avec ses émissions mythiques Jazz sur scène ou Jazz vivant, accompagné les plus grands. À 22 ans, il organise son premier concert, puis entre à la radio. C'était en 47. Il a ensuite révélé, inspiré et suivi plusieurs générations de musiciens et d'interprètes, comme à Nice en 71 et Ella Fitzgerald. Au cours de toutes ces années au service du jazz, il aura programmé pas moins de 10 000 formations. Concis, précis, il fera découvrir aux auditeurs toute la palette du jazz. André Francis avait pris sa retraite en 96, mais le jazz restait au cœur de sa vie. Il était le maître d'œuvre, vous l'avez dit, de nombreux festivals, comme celui d'Antibes Juan-les-Pins, qu'il présente jusqu'en 99 et où en 63, il avait accueilli le quintet de Miles Davis.
Avec Ron Carter à la contrebasse, avec Herbie Hancock au piano, George Coleman au saxophone ténor et Miles Davis.
En 2010, André Francis avait participé à une formidable anthologie, une collection monumentale de 100 CD éditée par Le Chant du Monde qui s'appelait bien sûr La Grande Histoire du Jazz.
Merci Jacqueline Petrose et nos amis de France Musique lui rendent hommage ce soir à André Francis qui avait 93 ans.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Du beau temps demain.
Oui, il faudra quand même un petit peu de patience du nord de la Seine et de la Lorraine vers la région parisienne, le centre, le Lyonnais. Le soleil devra composer avec les nuages bas et les brouillards le matin, mais il s'imposera bien au fil des heures, un petit peu plus tardivement vers le Val-de-Saône ou le Lyonnais. Ailleurs, sur les régions de l'ouest, du sud, sur le Jura, sur l'Alsace, du soleil dès le matin. Tout juste quelques grisailles vers le sud de la Garonne, la vallée de la Garonne, pardon, le massif central ou alors vers le sud de la Bretagne, mais on n'en parlera plus l'après-midi. Et on trouvera aussi des nuages vers le Var poussés par un vent d'est sensible. Ils gagneront le Languedoc-Roussillon l'après-midi et un vent d'autant qui se mettra en place jusqu'à 60 km à l'heure.
Et ce sera encore frais le matin.
Des gelées nombreuses. Alors on ira chercher un petit peu de douceur quand même vers la pointe bretonne, vers la côte d'Azur. Et puis l'après-midi, pas moins de 8 degrés à Metz, 10 à Paris, à Lyon, 11 à Cherbourg et à Bourges, 12 degrés à Brest, 14 pour Bordeaux, 15 pour Marseille, pour Ajaccio. Et puis on ira jusqu'à 16 degrés à Bayonne.
C'est pas mal. Merci Élodie Calac.